Tout le monde se bat pour devenir riche, car la richesse évoque dans notre esprit tous les fantasmes des plus légitimes aux plus insensés. Vouloir une chose, c'est bien. Passer à l'action pour l'obtenir demande des connaissances. Est-ce qu'une fois, vous vous êtes demandé ce qu'est la richesse et comment la créer? Nous recevons M. Kafou Djem. Il est cofondateur d'une société de gestion de patrimoine en Europe et en Afrique nommée Silvercrest Capital. Et il va apporter des réponses claires à cette question. Vous êtes sur le Mentor Économique, le podcast. Je me nomme Baptiste Junior. Je suis serial entrepreneur dans la communication et les finances. Ce podcast vous permet d'être au plus près des acteurs économiques et financiers qui font évoluer le continent africain. Bonjour Monsieur Kafou Djem, comment allez-vous?
Oui, je vais très bien, Junior, merci. Mm-hmm. Merci de me prendre dans ce podcast.
J'espère que je prononce bien le nom.
Effectivement, après au Congo, il y a le nom aussi Kafou, parce que j'étais au Congo en 2019 pour un voyage d'affaires et j'ai rencontré un réceptionniste, il avait le même nom que moi, Monsieur Kafou.
D'accord, ok. Alors, Monsieur Kafou Djem, est-ce que... Bon, moi, déjà, nous, on a l'habitude d'arrêter de se vouvoyer. Je trouve que c'est un truc qui est très francophone, de rester sur le vous. On préfère être dans le tu. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être un peu plus, voilà quoi, d'être plus rapprochés. Et puisqu'on va parler d'un vrai sujet, j'aimerais qu'on soit totalement à l'aise, ok? Donc, ok. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour mes abonnés?
Déjà, je m'appelle Kafou et je suis d'origine camerounaise, de la région anglophone. Je suis cofondateur et directeur des opérations. Et je suis à la tête de stratégie pour notre société, Silvercrest Capital Management. Une société qui fait dans la gestion de patrimoine, qui investissent beaucoup dans la bourse. Oui, on fait dans la bourse, on fait aussi de la gestion des patrimoines et puis il y a aussi la gestion des portefeuilles dans les marchés des capitaux.
D'accord.
Oui, en plus, je suis fondateur de l'une des organisations aussi qui s'appelle Norgena, qui fait effectivement dans la structuration du trading FX sur des produits exotiques. Sur des paires de devises exotiques, par exemple, comme des paires de devises en Afrique.
D'accord. Ouais. Ok. Alors, est-ce que déjà, pour ceux qui nous écoutent, tu peux définir ce que c'est que ce que tu appelles la gestion de patrimoine ou le wealth management? C'est quoi le wealth management ou la gestion de patrimoine?
Oui, le wealth management, effectivement, c'est dans le cadre des investisseurs, par exemple, vous avez un individu ou une société qui veut effectivement mettre une partie de leurs revenus dans le marché financier, par exemple, ou bien qui veut diversifier leur portefeuille. Ils peuvent revenir à vous et nous, on les propose plus ou moins des différentes stratégies d'investissement qui permettent d'accroître effectivement leur capital dans les différents.
D'accord.
Ça peut être l'immobilier, ça peut être dans la bourse sur des actions ou bien des indices boursiers. Ça peut aussi être au niveau de la devise aussi, parce que figurez-vous, il y a des sociétés en Afrique qui font dans l'import-export et qui veulent gérer à leur niveau les devises étrangères comme par exemple le dollar ou l'euro. Et après, souvent ils n'ont pas cette connaissance en termes de stratégie, comment ils peuvent gérer tout cela. Et puis nous, on revient vers eux avec des solutions par rapport.
D'accord. Et donc, tout ça là, en gros, c'est que vous créez de la richesse pour vos clients.
Oui, on crée de la richesse pour nos clients. D'accord. On leur donne l'opportunité de croître effectivement leurs revenus, quoi.
Alors moi, je vais vous poser une question qui est assez franco. Pour vous, comment vous définissez la richesse aujourd'hui? C'est quoi la richesse?
Très bonne question. Effectivement, comme je dis toujours, dans plusieurs podcasts ou bien plusieurs présentations, je fais toujours comprendre, surtout aux Africains, parce que ça, c'est un problème en Afrique. Il y a une différence entre avoir Je vais prendre un exemple, avoir 100 millions de dollars dans un compte, et c'est tout, hein, en espèces, et avoir des biens, par exemple, qui ont des valeurs similaires. D'accord?
D'accord.
Alors, celui qui a des biens, par exemple, effectivement, est beaucoup plus riche parce que il y a déjà, en termes économiques, quand vous avez de l'argent en espèces, cet argent, du jour au lendemain, peut perdre de la valeur complètement.
Ouais.
Oui. Et alors, en ce moment donné, vous n'avez pas créé de la richesse. Mais si vous avez 100 millions de dollars et vous avez plus ou moins en bien, soit dans l'immobilier, soit des actions, ou soit ne serait-ce que même dans l'agriculture, vous avez une société qui produit ce qui revient quelque chose, ça, c'est maintenant ce qu'on appelle la richesse parce que il faut déjà transformer l'espèce en bien qui peut être, qui peut croître effectivement, qui peut être, comment on appelle ça encore en français, sustainable. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez effectivement soutenir ce niveau de richesse pendant longtemps. Et la seule moyen de le faire, c'est de transformer ce que vous avez en bien qui a de la valeur.
Bon, mais d'accord. Allons-y sur un plan pratique. Déjà, à partir de quel revenu aujourd'hui un individu est capable de se dire ben tiens j'ai envie de me créer de la richesse. Ça veut dire que j'ai envie de passer du stade où je gagne de l'argent à un stade où je commence à posséder, ok, comme vous avez pu dire, posséder des actifs, posséder peut-être des voilà, posséder du matériel, ok, qui va rendre en fait qui va rendre sa richesse de soutenable, comme tu, c'est sustainable en anglais, voilà. Oui, à partir de quel revenu on peut le faire?
Ben écoutez, disons, on peut le faire à partir de, je n'ai pas de chiffres standard, cela, mais je pourrais plus ou moins dire que il faut déjà commencer très tôt. Il faut commencer à créer déjà cette richesse. Ça veut dire, du moment où vous commencez déjà à travailler, vous gagnez un peu de revenus, il faudrait mettre un peu à côté, il faudrait déjà avoir un objectif. D'accord? Laissez-moi déjà commencer par là, parce que pour moi, c'est très important. Comment est-ce qu'on crée cette richesse? D'accord?
Ouais.
Si tu es là, pour dire, bon voilà, je possède déjà quelque chose de concret, du matériel, il faut déjà avoir un objectif. Ça, c'est la première chose, c'est fixer des objectifs.
D'accord.
Ah oui, du moment où vous avez des entrées et que, par exemple, vous travaillez, vous avez des entrées, vous fixez, par exemple, un objectif, soit vous recherchez plus ou moins la sécurisation de vos fonds, ou bien vous recherchez plus ou moins des taux d'intérêt importants. Voilà, on commence déjà par là. Ça veut dire que même si on commence avec 100 dollars, ça dépend de investir ce 100 dollars pour sécuriser ce fonds, ou bien pour rechercher plus ou moins des taux d'intérêt importants. On peut le mettre dans les obligations, par exemple, obligations qui reviennent avec 5% par an, c'est déjà des taux d'intérêt importants. Ou bien on va investir dans la bourse, d'accord, sur des actions, bien des différents produits boursiers, rentabilité aussi importante. Voilà.
Mais est-ce que dans cette quête de rentabilité là, vous pensez que un placement en banque peut être compris comme étant vraiment quelque chose qui va permettre de faire croître la richesse? Parce qu'il y a par exemple les banques, ils proposent des produits d'épargne qui sont moyennement, je sais pas si je veux dire moyennement, c'est tristement rémunéré, mais aujourd'hui je pense que ce sont des produits qui sont à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à ce produit-là. Mais est-ce que vraiment déposer son argent en banque, en épargne, je sais pas, en compte fermé, est-ce que c'est vraiment un investissement?
Bon, de nos jours, les banques ne proposent pas des épargnes intéressantes, d'accord? Parce que les taux d'intérêt ne sont pas assez élevés. Et en plus, c'est pas vraiment intéressant. Mais si on veut réellement investir pour avoir des retours importants, des retours intéressants, je pense pas que la banque soit la meilleure solution. La banque, effectivement, offre des solutions plus, disons, qui ont beaucoup plus de sécurité parce que vos fonds sont là, d'accord? Et puis, vous avez des retours, des intérêts de moins 1 ou 2%, d'accord? C'est du tout. 2%, c'est même trop, trop dit parce que parfois, ça ne dépasse pas les 1%, vous voyez? Alors, il faut déjà voir ce que vous voulez faire. Il faut avoir ce qu'on appelle un horizon. Vous voulez savoir, disons, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent dans 5 ans ou 10 ans? C'est très important, ces questions. Du coup, quand on a des réponses, on se dit, bon voilà, moi, j'aimerais commencer un projet dans 10 ans et puis je peux mettre, disons, 200 dollars par mois, d'accord, qui revient 400 dollars par an. Avec la banque, je me retrouve avec 1%. Hein, c'est rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux investir avec, comment on les appelle encore en français? En anglais, on appelle pension fund. C'est-à-dire, c'est qui gère plus ou moins les pensions. D'accord? C'est des fonds, des retours qui sont un peu au-dessus de ce que la banque propose.
D'accord.
2,3%. Non. Ceci, c'est pour des gens qui ne veulent pas prendre des risques importants. Mais si vous voulez effectivement avoir beaucoup plus que 2% ou 2,5% ou 3%, là, vous devez commencer à regarder plus ou moins des fonds d'investissement, comme la nôtre, l'Orchestre Capital Management, vous propose, disons, entre 5% à 6% de retour.
D'accord. Mais en vous écoutant, on sent bien que le risque, en fait, est vraiment la clé dans tout ça. Ça veut dire que si on a envie de bâtir de la richesse, il faut prendre des risques, en fait. Mais vous, dans votre activité, vous êtes déjà en face de clients. Vous êtes déjà en face de plusieurs clients. Ouais. Comment vous faites pour pouvoir casser cette aversion au risque? Comment vous faites pour les mettre en confiance, ces clients? Supposons que je suis un client à vous, que je vienne. Monsieur Cafou, j'ai envie, vous me proposez votre produit. Je vous dis, mais attends, c'est risqué. Mais moi, je ne sais pas, peut-être que je vais perdre tout mon argent. Comment vous réagissez? Comment vous me mettez en confiance dans ça?
D'accord. Bon, écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que à l'époque, quand je travaillais avec des différents courtiers à Londres, comme à Chypre aussi, à un moment donné, j'ai commencé à travailler plus ou moins à vendre des produits financiers dans le marché africain, l'Afrique du Sud, notamment l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria et certains pays francophones aussi. Alors, je me suis rendu compte que cette astuce de risque, cette risque, c'est un problème.
Cette aversion.
Oui, cette aversion de risque est beaucoup plus ressentie dans les zones francophones qu'anglophones.
D'accord.
Voilà. Parce que, et en plus, ce que nous on fait, ce que moi je fais, d'accord, avec ma compagnie, je ne vends pas, je ne propose pas des retours d'investissement intéressants. Quand je reviens vers un client, ce que moi je lui propose, c'est le risque.
D'accord. Alors, oui, ce que vous lui proposez, c'est le risque.
C'est le risque. Puisque là, traditionnellement parlant, il y a beaucoup plus des compagnies qui vont revenir. Bon, voilà ce qu'on vous propose. Vous pouvez gagner 10% par mois mensuel. Ils vous proposent des retours très intéressants. D'accord. Et là, vous êtes du coup là, vous l'investissez. Mais chez nous, c'est complètement différent. C'est l'inverse. Moi, je vous dis, bon, j'essaye déjà de comprendre mon client. C'est très important. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Combien est-ce que vous gagnez par mois? Et puis, il faut faire effectivement ce qu'on appelle... il faut déterminer un budget. Et pour déterminer ce budget, il faut déjà faire certains calculs, comme par exemple mettre à côté les dépenses, ce que vous avez comme des dépenses mensuelles, pour avoir un budget net. D'accord. Essayez de voir aussi ce que vous avez comme dette. Tout cela, et après, on peut discuter. Je peux vous dire, bon, voilà, si vous avez un budget, vous avez là, comme votre budget net, voilà ce que nous, on peut vous proposer. Et alors, moi, je dis au client, si vous voulez adopter cette stratégie, si vous choisissez cette stratégie, voilà ce que vous choisissez comme risque. Ce risque, voilà ce que vous pouvez gagner. C'est très simple. Il faudrait déjà que le client, dès la base, comprenne que l'investissement, c'est prendre des risques. Sans risque, il n'y a pas de retour. D'accord? Et alors, ce qu'on fait, on fait une ratio entre risque et retour. Et c'est cette race qu'on vend aux clients.
D'accord.
Voilà. Parce que moi, je fais comprendre que, écoutez, avec cette stratégie, voilà comment nous adoptons cette stratégie. Voilà sur des produits qu'on nous investissons. Voilà comment nous diversifions le portefeuille. Et voilà comment nous arrivons à produire 5 à 6% mensuels.
D'accord.
Alors, le client, il peut le voir. On lui donne, on a ce qu'on appelle performance sheet, c'est-à-dire c'est une grille de performance. Oui, historique de nos performances. D'accord. Ouais. Ce client, il peut regarder et puis bon voilà, il revient vers nous, il dit, écoutez, moi je préfère telle stratégie parce que ça engage plus ou moins 15% des risques sur mon portefeuille. Ou bien je préfère 30% des risques sur le portefeuille, je préfère 20% des risques sur le portefeuille.
D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons de nouveaux produits qui sont sur le marché, notamment les produits crypto, dont je parle beaucoup. Mais est-ce que vous avez intégré ou est-ce que vous songez à intégrer les cryptos dans votre comme actifs sur lesquels vous travaillez?
Écoutez, les cryptos sont très intéressants. D'accord, c'est effectivement des actifs très intéressants, je dirais. Nous voyons déjà que le nombre des abonnés dans le marché du crypto est passé de 200 millions à non, c'est passé de 150 millions à 203 millions déjà d'investisseurs dans les cryptos. Mais chez nous, avec Silvercrest Capital Management, pour l'instant, pas des investissements sur le crypto. Je vais vous dire pourquoi.
D'accord.
Les crypto-monnaies sont avec cette volatilité. Il y a d'abord la volatilité au niveau des cryptos. Et étant donné que nous avons des clients, des particuliers et des institutions financières qui reviennent vers nous, qui sollicitent nos services, la majorité de nos clients évitent cet actif. Bon, après, ça dépend. Il y a des clients qui exigent d'avoir crypto-monnaie dans leur portefeuille.
D'accord. Mais en termes de pourcentage par rapport à vos clients, ça serait combien à peu près?
Si le moins 5% du portefeuille soit attribué aux crypto-monnaies, aux 10%.
D'accord.
Alors, si le client demande, si le client a ce genre d'exigence, c'est qu'on fait, on le fait signer, plus ou moins ce qu'on appelle. Comment on appelle ça? Donc, c'est un document, en fait, qui montre...
Qui lui donne toute la responsabilité.
Oui, qui lui donne toute la responsabilité.
D'accord.
Parce qu'après, nous ne voulons pas que le client revienne vers nous avec des plaintes ou bien qui se plaint. Vous voyez, c'est très important parce qu'on a une institution à défendre, on a une image à défendre de l'ADO.
Ouais,
c'est très important pour nous.
Et du côté des stocks, notamment les actions, vous investissez aussi dans les actions?
Oui, on investit dans les actions.
D'accord. Là, on va rentrer dans un domaine dans un domaine purement africain parce que moi ça serait intéressant. Je pense que on regarde aussi les bourses ou la dynamique des bourses en Afrique. Ok. Et vous étant un professionnel de ce domaine, vous pouvez à peu près me dire quels sont pour vous, je pense, les points les plus chauds en Afrique en ce moment sur lesquels on est capable de pouvoir investir de l'argent. Donc, les bourses, quelles sont les bourses qui pour vous semblent intéressantes? Et est-ce que du pays où vous êtes capable d'agir aussi sur ces bourses-là? Parce que l'autre problème que peut rencontrer une personne qui aimerait investir dans différentes bourses, en fait, c'est comment y accéder? Est-ce qu'il faut passer par de nombreux intermédiaires de bourses? Et c'est souvent interminable. Alors que sur les bourses, par exemple, européennes ou américaines, on passe directement par un broker qui, lui, vous donne l'accès à toutes ces actions-là, parfois dans un seul module informatique. Mais comment vous faites? Donc, en récapitulatif, quels sont les points chauds? Donc, en ce moment-ci, les hot points où on peut vraiment investir et on peut avoir de bons retours. Et de deux, comment vous faites pour rentrer sur tous ces points-là? Voilà.
D'accord. Déjà, le marché boursier en Afrique, c'est un marché qui est toujours en voie de développement.
D'accord.
Oui. En dehors des pays comme des pays, par exemple, des régions comme le Maghreb et l'Afrique du Sud, qui sont l'Afrique du Sud a déjà une bourse très développée par rapport à certains pays africains et aussi les pays du Maghreb qui ont déjà des bourses beaucoup plus avancées comme que certains pays de l'Afrique continentale.
Continentale, oui.
Ouais. Alors, nous, on regarde, il y a plus ou moins des bourses très intéressantes en Afrique, comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Nigeria.
D'accord.
Le Nigeria. Le Nigeria est aussi beaucoup plus intéressant parce que l'Afrique du Sud, c'est déjà avancé, mais il y a cette restriction à certains niveaux des clients et tout. Donc, ce que nous on fait, on travaille beaucoup plus, comme je vous ai dit, Silvercrest, on a beaucoup plus de clients au niveau du Nigeria, des investisseurs très importants, ils investissent une grosse somme d'argent avec nous. Et des institutions aussi financières au Nigeria qui ont de larges portefeuilles avec nous aussi. Et alors, il y a quelques temps, nous avons décidé de pénétrer ce marché au Nigeria, la bourse nigérienne, qui propose déjà des actions et des obligations aussi. Et maintenant, ils ont développé aussi des produits dérivés.
Ah, d'accord.
Ah oui, ils ont développé des produits dérivés. Du coup, c'est un marché qui est en voie de développement. Et quand un marché, une bourse est en voie de développement, c'est là où il y a beaucoup plus d'opportunités. Mais aussi, il y a au niveau de la réglementation. Raison pour laquelle les clients viennent vers nous, c'est parce que quand vous êtes particulier et vous avez accès à la bourse, on vous demande plein de documents. D'accord, vous devez traverser plusieurs étapes, mais quand vous passez par une institution financière, comme par exemple Silvercrest Capital Management, tout ce qu'on nous demande, c'est les documents de la compagnie pour voir effectivement si on est réglementé au niveau de l'Afrique ou bien au niveau de l'Europe. Et heureusement pour nous, nous avons plus ou moins une réglementation au niveau de la Suisse. Et alors, c'est beaucoup plus facile pour nous d'accéder à ce marché.
D'accord.
Oui, c'est comme ça.
Bon, maintenant, par exemple, si on aimerait, lorsqu'on investit au Nigeria, c'est clair qu'il faut avoir de l'information, parce que je pense qu'il n'y a pas de bourse sans information. Est-ce que aujourd'hui, le niveau d'information des entreprises qui sont cotées au Nigeria est satisfaisant pour permettre aux investisseurs de prendre les bonnes décisions?
Je dirais elles ne sont pas aussi sophistiquées comme l'Europe ou l'Amérique, mais au niveau de l'Afrique, oui, les informations sont... Vous pouvez, à base des informations des compagnies qui sont cotées en bourse, vous pouvez effectivement prendre une bonne décision d'investir dans la bourse au Nigeria. Les informations, c'est public, il y a des différents itinéraires ou bien des différents réseaux dans lesquels vous pouvez effectivement vous informer. Donc, je pense qu'ils ont une bonne source d'information.
Bon, mais là, je reviens sur les clients, ok, sur les clients de Silvercrest. C'est Silvercrest, effectivement. Donc, je reviens sur les clients. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que pour pouvoir bâtir de la richesse, on la bâtit dans le temps. On la bâtit forcément dans le temps. C'est pas quelque chose d'un an à deux ans. Est-ce que les clients prennent réellement conscience que il faut du temps pour pouvoir faire de l'argent? Parce que je le dis sur du vécu, je le dis sur de l'expérience que j'ai pu avoir en Afrique centrale, c'est que souvent les clients, lorsque on parle de création de richesse, ils ont l'impression que on crée de la richesse c'est en une année, c'est en deux ans, il faut que ça fasse vite. Est-ce que c'est le même retour sur expérience que vous pouvez avoir de vos clients, ou tout simplement parce que vous êtes dans une zone anglophone, les clients savent que il faut du temps réellement pour pouvoir faire de l'argent? Moi, je sais pas.
Oui, Junior, très bien. Très belle question, c'est très important. Déjà, puisque je suis aussi dans l'Afrique centrale, je connais déjà, j'ai déjà une expérience au niveau de l'Afrique centrale avec des clients qui veulent s'enrichir du jour au lendemain. Un an même, c'est beaucoup parlé. Il y a des gens qui veulent des retours d'ici 6 mois. Ils veulent effectivement avoir 100% de retour sur le portefeuille, qui est quasiment impossible avec nos stratégies. Je dirais aussi que dans les zones anglophones, il y a aussi certains clients qui ont la même mentalité. Mais comprenez que quand on revient dans le secteur d'investissement dans la bourse où il y a la création des richesses à mot propre, la zone anglophone est beaucoup plus avancée parce qu'ils ont plus d'informations, ils sont beaucoup plus intéressés et beaucoup des individus ont compris que déjà... on ne peut pas s'enrichir du jour au lendemain. D'accord ? Alors, nos clients, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, quand un client revient vers nous, on essaie toujours de le faire comprendre que ici, déjà, on ne vous promet pas des retours stupéfiants. D'accord ? Et on ne vous promet pas des retours stupéfiants parce que ça n'a pas de sens. On essaie de voir avec le client qu'est-ce qu'il veut réellement. D'accord ? Mais dit par exemple, je vais investir et dans un an, je voudrais plus ou moins retirer mes fonds, d'accord ? Et je voudrais avoir plus ou moins 60% de retour sur mon investissement. Moi, je dirais tout simplement, si vous voulez avoir 60% de retour en un an, est-ce que vous êtes prêt à prendre jusqu'à 50% de risque sur votre investissement ? Je dis jamais non, d'accord ? C'est le client lui-même qui va décider si...
Oui, c'est clair. C'est
passé ou pas, vous comprenez. Mais non, le truc, c'est que certains reviennent, ils disent non, moi je ne vais pas prendre des risques, moi je vais gagner 40%, 50%, c'est quasiment impossible. Et alors, nous n'avons pas assez de clients. Écoutez, chez nous, on fonctionne beaucoup plus avec la qualité que de la quantité.
La quantité.
Raison pour laquelle on a beaucoup plus de clients institutionnels. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux. Ils ont un objectif, ils savent ce qu'ils veulent, ils investissent avec nous dans les horizons de 5 à 10 ans. Là, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ce genre de clients. Maintenant, on travaille aussi avec des individus qui sont riches, d'accord, qui ont normalement de l'argent et qui veulent effectivement mettre une partie dans la bourse pour 2 à 5 ans.
D'accord.
Voilà. Et avec eux, on essaie de faire comprendre, écoutez, si vous voulez faire croître votre investissement, voilà effectivement le temps qu'il faut mettre pour atteindre tel objectif. Voilà nos stratégies. Effectivement, voilà les produits sur lesquels nous allons investir. Voilà le risque. D'accord. Et après, le client doit décider, c'est lui qui doit prendre la décision finale si effectivement ils veulent investir avec nous ou pas.
D'accord. Un autre souci, bon, pas forcément un souci, mais est-ce que vous pensez que aujourd'hui les discours répétés sur la liberté financière ont forcément un impact positif sur votre business ou sur la manière dont les personnes aujourd'hui sont en train de comprendre le monde de l'investissement? Parce qu'il y a énormément de discours au-dessus. Tout le monde parle de liberté financière. On n'entend plus que ça. C'est la liberté financière surtout à toutes les sauces et tout. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est pas en train tout simplement de banaliser en fait un acte qui devrait être pris au sérieux en fait?
Je pense que effectivement, ce que vous dites est vrai. On est en train de banaliser un acte qui doit être pris sérieusement, moi je pense. La liberté financière, c'est quelque chose, c'est un sujet que tout le monde en parle à l'heure actuelle, des gens qui sont au moyen âge et tout. Et vous savez, le challenge ici, c'est que est-ce que ces personnes comprennent ce que veut dire comment ils appellent ça encore la liberté, ce que veut dire la liberté financière. Est-ce qu'ils comprennent effectivement cette terminologie. C'est très important. Parce que certaines personnes se disent que la liberté financière, c'est de gagner, c'est d'avoir un système où vous pouvez faire. Vous pouvez être riche comme ça et vous pouvez effectivement gagner de l'argent tout seul. Vous pouvez, parce que il y a certaines barrières, il y a certains challenges qui viennent avec cela. D'accord? Mm-hmm. La liberté financière peut dire que vous avez plus ou moins un travail, mais vous avez mm-hmm. quelque chose que vous faisiez à côté pour gagner un peu plus. Ça, c'est la liberté financière. Mais les gens mm-hmm. ne comprennent pas ça. Pour eux, la liberté financière, c'est que moi, je peux faire ce que moi, je veux faire et gagner de l'argent et c'est tout. Je vais pas travailler, je vais rien faire, je vais peut-être investir en bourse et puis je vais avoir des retours et puis je vais vivre ma vie. Vous voyez? Mm-hmm. Non, c'est très loin de la vérité. C'est très, très, très loin de la vérité. Et mm-hmm. ça a un impact sur notre organisation comme ça a un impact sur toutes les organisations financières.
Mm-hmm.
Parce que ce sujet de liberté financière, effectivement, a emmené beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes à vouloir comprendre comment
mm-hmm.
investir en bourse, comment investir dans les crypto-monnaies, hein, qui est d'ailleurs, mm-hmm. tout le monde veut faire des crypto-monnaies aujourd'hui, d'accord
mm-hmm.
Comment être rentier, mm-hmm. comment. Bref, il y a plein de trucs, quoi. Et ça force de cela qu'ils reviennent, certaines personnes décident d'investir, ou bien certaines personnes décident de revenir vers nous, ou vers une autre institution financière. Bon, mm-hmm. Ça a un impact positif. Mais le challenge ici, c'est de savoir si on comprend réellement cette terminologie-là. Liberté financière.
Mais après, moi, j'aimerais, pour mes abonnés, que tu puisses leur parler d'une journée type, hein, d'une journée type à Silvercrest. Parce que effectivement, en cherchant la liberté financière, on a tout simplement des effets de mode qui sont en train de se multiplier à travers l'Afrique.
Ouais.
Des jeunes qui pensent que aller en bourse, ce n'est pas un travail. Ça veut dire c'est un jeu vidéo où on vient, on manipule des indicateurs, on regarde juste ce qu'on a bien envie de voir et on pense que ça va nous donner des millions. Mais moi, en te posant cette question et en te demandant de parler de ta journée type, j'ai bien envie qu'ils arrivent à comprendre en fait qu'il y a un effet de discipline de malade à l'intérieur. Ça veut dire que c'est un véritable travail qui demande en fait de pouvoir se former, de pouvoir rester informé, parce que se former et rester informé, c'est deux choses différentes. Et aussi, ça demande de pouvoir maîtriser certains outils. Et donc, moi, j'aimerais que tu nous parles un peu. C'est quoi vraiment une journée type pour toi au niveau de Silvercrest? Et si possible, une journée opérationnelle.
Oui. Une journée opérationnelle. Déjà, je suis directeur des opérations avec Silvercrest et je suis à la tête de ce qu'on appelle Head of Global Strategy, c'est-à-dire je suis à la tête de la stratégie globale, et, entre autres. Alors, une journée opérationnelle avec Silvercrest. Écoutez, déjà, ça demande beaucoup. Ça veut dire, comme vous avez dit, s'informer et rester informé. Alors, normalement, 5 heures, hein, à 5 heures, mm-hmm. je dis vous, d'accord? Je me lève à 5 heures. La première chose, les actualités du marché. Ça, c'est la première chose. Et moi, j'ai des téléphones, un téléphone ici, c'est justement pour faire ce genre de truc. Hein. Et puis, les actualités du marché, je vois ce qui se passait, je fais mes analyses. Déjà, ça, ce sont des analyses au niveau fondamental. Je regarde plus ou moins les news. Et après, j'ai toutes les alertes dans mon téléphone aussi et mon ordinateur, parce que j'ai des ordinateurs ici, où je regarde plus ou moins ce qui se passait le jour d'avant ou dans la nuit, d'accord? Parce qu'il faut un feedback. Il faut toujours regarder ce qu'on a fait hier jusqu'à à la clôturation du marché et le matin, ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que si vous êtes investisseur, vous allez comprendre qu'il y a trois sessions dans les marchés financiers. Il y a la session européenne, il y a la session américaine et la session asiatique. Donc, le moment où on dort, c'est l'Asie qui est en train de fonctionner. Et alors, si on investit dans toutes les trois différentes sessions, ça veut dire qu'effectivement, on doit être au top. Donc, ça veut dire qu'on doit toujours contrôler tout ce qui se passe. Moi, je me réveille le matin, je fais tout cela et après, J'ai des meetings après meetings avec des clients, comme là maintenant nous sommes en train de faire un podcast. Avant ce podcast, j'étais en meeting avec une Sud-Africaine, d'accord, qui est propriétaire d'une holding, d'accord.
Mm-hmm.
Discuter énormément des différents horizons d'investissement, voilà ce que moi je fais. Et après, je reviens maintenant vers des clients qui ont envoyé des emails comme ils veulent investir avec nous. Il faut maintenant suivre au niveau des documentations. Alors, il y a des réglementations à suivre. Si le client ne remplit pas la conformité au niveau des comptes, ne remplit pas les régulations au niveau des conformités, ne peut pas être notre client. Et alors, il faut qu'on fait tout cela. Et après, je dois revenir vers le département de conformité, d'accord. Je dois suivre le département de conformité et lui demander de suivre certains documents. Et après, je reviens au niveau du trading desk, d'accord. Là où je dois discuter avec celui qui a la tête du trading, il me revient toujours, il fait des rapports par rapport à ce qui se passe dans le marché, par rapport à ce qu'on a fait comme profit et perte, d'accord. Parce que c'est des pertes, hein, il faut qu'on le dise.
Ouais.
Ça, c'est vrai. Et après, on doit analyser. Parfois, il y a des stratégies qui ne marchent pas. Ça veut dire qu'on doit arrêter tout ce qu'on fait. Et puis, on réanalyse encore nos stratégies. On revoit les stratégies. On essaye d'adopter de nouvelles stratégies. D'accord. Et puis, je reviens maintenant au niveau du, des Quantic Department, c'est-à-dire c'est un département qui travaille sur des AI, Artificial Intelligence, qui développe plus ou moins des stratégies quantiques, des stratégies qu'on utilise plus ou moins des robots, d'accord. Pour suivre effectivement le mouvement dans le marché et créer, par exemple, des alertes et comment des entrées et tout. Donc, il y a tout cela, je dois le faire en une journée. Parce que je dirais, ça me revient comme responsabilité de voir tous ces départements et voir ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Ce rapport revient sur ma table. Et parfois, je suis en déplacement, comme à l'heure actuelle. Parfois, je suis à Londres, parfois, je suis en Allemagne, comme maintenant, je suis en Allemagne, je suis à Francfort. Parfois, je suis à Sambour et parfois, je suis à Chypre. Donc, ça dépend. D'accord. Et puisque notre trading desk est à Chypre, c'est plus facile parce que je peux aller au bureau et je contrôle tout ce qui se passe. Mais quand je suis en déplacement, si je suis obligé de me déplacer pour voir un client à Londres, ou bien au Luxembourg, ou bien à Francfort, ou bien à Stuttgart, il faudrait que moi je parte. Parce que c'est comme ça. Et c'est comme ça une journée. C'est vraiment, je peux pas vous donner tous les détails parce que ça va nous prendre plus ou moins une heure de temps. Mais ça, en général, c'est ce que moi je fais en une journée. C'est très, très. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Parce que quand le département du trading te revient avec un rapport, vous devez regarder entre les lignes tous ces rapports, des chiffres, des stratégies, tout ce que vous devez être vraiment discipliné pour comprendre effectivement tout ce qui se passe. Sinon, si vous commettez une erreur, ça peut créer vraiment des énormes.
Un effet boule de neige.
Exactement. C'est très important. Il faut toujours être au top de votre game.
Alors, aujourd'hui, moi, je crois qu'on est en train de partir effectivement peut-être vers la fin de ce podcast, mais si un jeune, puisqu'on a plusieurs jeunes dans le continent qui sont intéressés, fascinés par le trading, et pas seulement parce qu'ils regardent des contenus de liberté financière, mais on a aussi des jeunes qui sont vraiment passionnés de ça, mais qui n'arrivent pas à trouver des filières, que ça soit en éducation, pour pouvoir leur permettre de pouvoir développer effectivement ce qu'ils ont envie de faire. Quel peut être moi j'aimerais bien que un grand frère leur donne un conseil, et même quand je dis un grand frère, même un frère, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont notre âge et qui sont intéressées, qui sont plus vieux que nous, qui sont intéressées par ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller vers cette filière là, notamment le trading? Comment ils peuvent accéder et un jour peut-être devenir comme toi, un chef ou un spécialiste des stratégies pour le wealth management? Comment il peut faire? Qu'est-ce qui, voilà quoi. si tu pourrais les donner un petit sillon.
Déjà, je dirais l'éducation. Éducation jusqu'à la fin. Parce qu'on ne s'arrête pas, même jusqu'à là, moi, je continue à prendre des diplômes. Vous comprenez ? D'accord. Donc, il faudrait déjà qu'il essaie de s'informer. D'accord ? Il y a des différents matériels. Si vous allez sur l'Internet, vous pouvez trouver effectivement des matériels d'information sur le trading. D'accord ? Ou bien sur l'investissement en général. Et puis, il y a aussi des écoles qui donnent des formations. D'accord ? J'en connais quelques écoles, même des gens que moi j'ai formés auparavant, qui font aussi maintenant les formations. D'accord ? Et j'ai quelques jeunes africains ou camerounais aussi qui sont vraiment investis dans cela, qui ont des écoles de formation ou des trading que moi je connais, qui peuvent effectivement recommander cela à certaines personnes. D'accord ? Mais avant tout, j'ai plus ou moins 4 ou 5 différents points à mentionner ici avant que, c'est-à-dire avant qu'ils s'engagent dans l'investissement, ils doivent d'abord déterminer l'objectif. C'est très important, c'est la première chose. La deuxième chose, ils doivent effectivement déterminer seulement ce qu'on appelle un budget. Ils doivent sortir avec un budget, c'est très important. Et moi, j'utilise la règle qui s'appelle la règle de un tiers.
D'accord.
C'est-à-dire, la règle d'un tiers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez plus ou moins un salaire, vous divisez votre salaire en trois parties, d'accord ? Une partie de ce que vous avez pris, c'est pour effectivement couvrir les dépenses mensuelles, et puis une partie, c'est pour payer les dettes, hein, et une autre partie, c'est pour effectivement, les mettre dans, comment on appelle ça encore ? Pour l'investir, quoi. Oui. Et alors, la troisième chose qu'il doit faire, c'est effectivement déterminer leur niveau de risque.
D'accord.
C'est très important, le niveau de risque. Et effectivement, la quatrième chose, c'est le niveau social. Votre statut social, c'est très important. Ça veut dire que quoi ? Est-ce que vous êtes père de famille ? D'accord ? Donc, vous voyez que dans le contexte africain, la famille, ce n'est pas seulement avoir une femme et des enfants. D'accord, c'est beaucoup plus grand que ça. Et alors, si vous avez des responsabilités au-delà de votre famille, donc c'est-à-dire la femme et les enfants, vous avez d'autres responsabilités au-delà de cela. Il faut voir déjà que ces responsabilités sont beaucoup plus importantes. C'est ce qui vient d'abord en premier lieu. Maintenant, il y a des choses qu'on doit éviter. Parce que c'est ce qu'on fait avant de se lancer, mais maintenant, il y a des choses qu'on doit éviter. D'accord, la première chose, c'est d'éviter de faire des investissements sans avoir plus ou moins des fonds d'amortissement. Oui. Se lancer dans l'investissement sans avoir un fonds d'amortissement est très dangereux parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le court terme ou dans le long terme. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut toujours avoir un fonds d'amortissement. Et il faut éviter d'avoir il est préférable d'avoir un budget dans un compte séparé vous pouvez effectivement l'utiliser pour certains projets que vous avez déjà, d'accord, thème ou le long terme, d'accord. C'est-à-dire, ça veut dire que ce que vous avez comme fonds pour investir doit être comment séparer de tout ce que vous voulez faire. C'est très important. Oui. Et éviter de prendre des décisions émotionnelles. C'est très important. Éviter de prendre des décisions émotionnelles. Quand il s'agit d'investissement, il faut mettre les émotions à côté. Ne serait-ce que la bourse, ne serait-ce que l'immobilier, ne serait-ce que ouvrir un atelier de travail, ne serait-ce que investir dans l'agriculture, n'importe quel investissement, les émotions ne doivent pas faire partie.
D'accord.
Il faut vraiment être réaliste, d'accord, avant de se lancer dans ce genre d'investissement, dans n'importe quel investissement que vous voulez faire. Donc, c'est ce que moi je suggère à tout le monde. Et après, tout le monde doit comprendre que le succès, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Le succès, c'est quelque chose qui vient avec du temps. D'accord ?
Oui.
Le succès vient avec autant de défaites.
Oui.
Oui. Donc, quand vous essayez et que vous échouez, ne vous arrêtez pas. Continuez et continuez. Et quand vous croyez effectivement à votre objectif, mettez tout ce que vous avez en termes de discipline, d'accord? Et je pense que vous pouvez y arriver.
Super. En tout cas, merci Cafou du temps que tu as pu donner aux mentors économiques et à mes abonnés. Moi, j'ai été très satisfait d'avoir été avec toi cet après-midi. Et je sais que tu as, en fait, tes dernières paroles, j'ai pas envie de mettre quelque chose dessus parce que j'ai juste envie que les personnes retiennent ce que tu leur as dit. C'est bien que le succès, ça se construit pas à pas. Ça ne vient pas du coup. Jamais. Et donc, je rappelle encore pour les abonnés qui sont pas encore, les personnes qui nous suivent et qui ne se sont pas encore abonnés, de pouvoir cliquer sur la petite clochette de YouTube si vous nous suivez sur YouTube, ou tout simplement de nous suivre si vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Apple Podcast ou vous êtes sur Google Podcast. Vous pouvez effectivement aussi vous enregistrer sur nos chaînes et pouvoir avoir des notifications lorsque nous faisons sortir de nouveaux podcasts. Alors, Cafou, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on va se voir. Il y a tellement de choses à exploiter. Le domaine dans lequel tu es est tellement vaste que nous pouvons faire rien qu'avec toi plus de 15 émissions, plus de 15 podcasts. Ça sera toujours aussi intéressant. Alors, je vais je sais pas si tu as un dernier mot. Tu nous donnes ton dernier mot.
Écoutez, Junior, tout ce que j'ai à dire, c'est merci de m'avoir dans votre podcast. C'est vraiment intéressant. Je suis toujours disponible à partager mon expérience et ma connaissance à tous les Africains, anglophones comme francophones. En tout cas, ce sont des frères. Et je reviens, s'ils veulent revenir vers moi directement, ils peuvent le faire. Ma société, c'est Silvercrest Capital Management.
OK.
Oui, et après, moi, je suis toujours disponible. Hein, s'ils en ont besoin des conseils, s'ils en ont besoin de l'éducation et tout, je serai toujours disponible à les fournir tout cela. Donc, merci beaucoup, Junior. Ça fait vraiment plaisir de faire partie de ces podcasts. Je souhaite qu'on puisse se retrouver encore une fois de plus pour discuter effectivement un autre sujet très important. Comme vous l'avez dit, cet domaine est tellement vaste. Il y a des choses qu'on peut voir. On peut avoir jusqu'à 15 ou même 30 différents podcasts sur le sujet de wealth management. Oui, c'est ça.
OK, allez. Donc, je vais vous dire un salut à tout le monde. Vous étiez sur Le Mentor Économique avec Baptiste Junior et Cafou Dieb. Et bonne soirée chez vous.
Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.